Je vous propose de lire le passage sur lequel j'aimerais me pencher avec vous, dans Jean 13, verset 33 jusqu'à Jean 14, verset 6. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant. Là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Alors j'ai réalisé dans mon calendrier que la dernière fois où j'étais présent ici un dimanche matin, c'était le 26 avril. Et il se trouve que depuis le 26 avril, il s'est passé une multitude de choses pendant les week-ends qui expliquent mon absence. Et j'aimerais juste partager avec vous ce que j'ai fait pendant ces week-ends. Et commencer tout d'abord par rappeler que le 26 avril, j'étais là avec vous juste avant de partir à Châlons-en-Champagne pour passer mes oraux de concours que je préparais depuis 2 ans. Je tiens tout de suite à vous remercier pour votre soutien, pour vos prières, pour vos mots d'encouragement. Et je pense que je peux partager avec vous la joie que j'ai d'avoir réussi ce concours. Et je pense qu'il y a vraiment trois personnes qui ont contribué à cette réussite. Il y a bien sûr Monseigneur, il y a vous en tant qu'assemblée, et puis à travers aussi ce que j'ai pu produire et le soutien que ma femme m'a apporté. Donc je tiens à vous remercier pour cela, et puis vous verrez à travers ce que je vais vous dire, je vous partagerai un petit peu ce que j'ai vécu depuis 2 ans à travers ce concours. Alors, juste après cette semaine de concours à Châlons-en-Champagne, j'étais en Suisse, à Lausanne, pour les 90 ans de mon grand-père. Et mon grand-père a la particularité de s'être réinvesti dans l'église réformée protestante de son village lorsqu'il est arrivé à la retraite. Autant vous dire que ça fait un petit bout de temps qu'il est investi dans l'église de son village, près de 25 ans, et ce jour de ses 90 ans, c'était l'occasion aussi de témoigner de son investissement, du fait qu'il avait envie de servir le Seigneur auprès des habitants de la commune où il est, de sa paroisse, et c'était aussi un témoignage pour toute la famille qui m'a encouragé. Le week-end suivant, j'étais avec les jeunes à un week-end AJC, dont vous avez déjà entendu parler. Il y en a certains qui ont participé au week-end, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu pendant ces moments-là. Et je tiens à préciser pour ceux que ça intéresse que le site de AJC a été complètement refait, il est juste magnifique. Vous avez toutes les informations si vous souhaitez participer à des camps cet été, Si vous souhaitez participer à des événements particuliers, tout est sur le site avec les liens vers les centres de vacances, c'est assez génial. Et le responsable de ce site AJC, c'est David Sotel. Alors, je vous ai mis sa photo, un peu plus grand que nature, parce que David Sotel est en fait un nouveau pasteur jeunesse des CRF depuis le 1er janvier. Et donc, s'il y a des week-ends qui ont lieu, qui peuvent avoir lieu, c'est notamment parce que la communauté d'église à laquelle nous appartenons investit dans un gars comme David Sotel qui consacre du temps pour organiser des week-ends. Et on en bénéficie, le jeune en bénéficie, et c'est encourageant. J'étais également à... ouais, je vous ai mis quelques photos, on voit rien là avec la lumière, mais... peut-être que c'est mieux comme ça d'ailleurs. Le week-end dernier, on est aussi allé à un week-end intercollégien. C'était à Astres-sur-Buèche. Il y avait Sergio, il y avait Ruben, ainsi que Anastase qui sont partis avec moi ce week-end. C'était sur 2 jours, dans un camping, pour certains, première nuit sous tente. Mais il faisait super chaud, c'était vraiment un moment très agréable et où les enfants, les jeunes, ont pris leurs pieds. Je crois que j'ai pris une photo voilà, de Sergio dans ses œuvres. Il y avait un trampoline géant et en fait, ils ont pu apprendre à faire toutes sortes de figures en l'air, c'était assez énorme et c'était assez génial pour eux. Et puis, dernier événement, c'était donc le congrès CAEF. Qui a eu lieu donc, du 23 au 25 mai à Vichy, la vie par l'esprit, avec l'orateur qui est le président du CNEF. Le CNEF, c'est la grande institution, enfin, c'est le conseil qui aujourd'hui réunit l'ensemble des protestants évangéliques en France et qui a 2 avantages. Le premier, c'est que Étienne Lermenot, son boulot, c'est d'être au courant de l'évolution de la loi, c'est d'être en relation avec des hommes politiques à Paris. Et deuxièmement, c'est de représenter les évangéliques auprès de la presse, auprès des médias, auprès des hommes politiques. Donc c'est hyper bien. Ce qui fait que maintenant, quand on parle des protestants évangéliques à nos collègues, ils commencent à comprendre un peu mieux qui nous sommes. Donc c'est un super travail et c'est encourageant. Alors évidemment, lors de chacun de ces week-ends, il y a eu des thèmes différents. Je ne vais pas vous faire un résumé de tout ce que j'ai entendu. Juste vous dire que je me suis pris 2-3 bonnes claques qui m'ont bien remis en question et qui m'ont fait du bien après 2 ans où j'étais plongé dans de la connaissance érudite sur l'histoire, sur la géographie. Ça m'a remis un petit peu les idées en place par rapport à mon positionnement et à ma relation avec Dieu. Et puis je pense que vous en profiterez aussi puisque je vous partagerai peut-être un peu plus tard comment le Seigneur travaille dans mon cœur. Alors pourquoi parler ce matin avec vous? Pourquoi je me suis penché sur ce passage de Jean 13, 33 à Jean 14, verset 1? Ben, il se trouve que le 26 avril, quand j'étais là... Ouais, c'est le bas débit du coup ça. Voilà. Le 26 avril, dernier dimanche où j'étais là, le président du culte était Nasser. Et Nasser a introduit le culte avec ce... verset, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et ça m'a encouragé et je suis parti à mes oraux de concours avec ce verset en tête, d'autant plus que 10 ans en arrière, lorsque je passais mon premier concours pour devenir prof, c'est le verset que j'avais lu le matin même avant mes écrits et qui m'avait encouragé. Donc j'y ai vu comme un clin d'œil du Seigneur, l'histoire se répète, et c'était tellement encourageant de pouvoir lire ce verset. Donc merci Nasser de l'avoir partagé, et j'aimerais donc voir en quoi ce verset m'a touché, et puis peut-être aussi vous encourager et vous toucher ce matin. Alors, j'aimerais partager avec vous 3 choses. On va y arriver. Ça arrive. J'aimerais partager avec vous quelques pistes vers le chemin de la paix. Avec trois axes, trois thèmes qui sont développés par Jésus avec ses disciples dans ce passage. Une relation, une conviction et une direction. Le contexte est un petit peu particulier, puisque Jésus partage un repas avec ses disciples juste avant d'être arrêté pour être jugé et crucifié. Lui sait ce qui va lui arriver, ses disciples ne sont pas conscients de ce qui va se passer, et d'où un passage assez troublant, mais qui est tellement enrichissant. Alors tout d'abord, une relation. Dans ce passage, il y a plusieurs mots qui montrent que Jésus est particulièrement attentif à développer une relation avec ses disciples. Il emploie des termes comme le terme « avec vous », comme le terme « avec moi ». Il parle de ses petits-enfants, il parle de ses disciples, des termes qui montrent qu'il se positionne en maître et qu'il souhaite enseigner ces hommes qui l'ont accompagné depuis 3 ans. Et en même temps, il insiste sur le fait qu'il les a aimés. Et il emploie cette expression sous la forme d'un commandement « Aimez-vous les uns les autres » à 3 reprises, dans une seule phrase. « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Vendredi soir, ici même, il y a eu une réunion un petit peu spéciale. C'est la 3e fois depuis le mois de septembre que cette réunion avait lieu. Elle rassemblait l'ensemble des responsables de commissions dans l'Église. Alors si ça fait un moment que vous êtes là, vous savez comment notre Église fonctionne. Si ça fait peu de temps, ça vous permet de comprendre un peu mieux. Dans l'Église, il y a des anciens qui sont responsables de la direction spirituelle de l'Église. Et puis, il y a des responsables de commissions qui s'intéressent plus spécifiquement au fonctionnement et aux activités qui parsèment notre calendrier. Alors, comme vous le voyez, il y a plusieurs types de commissions. Et les responsables étaient présents vendredi soir avec les anciens pour faire à la fois le bilan de l'année écoulée et puis commencer à parler de l'année 2015-2016. Alors, parmi ces commissions, il y a notamment une commission fête de Noël. Et ce qui était intéressant avec cette commission fête de Noël, qui était représentée par Aurore, c'est qu'elle nous a parlé de la fête de Noël 2015, qui arrive, mais elle a aussi commencé à nous parler de la fête de Noël 2016. Parce qu'en effet, il faut voir loin si on veut faire appel à des intervenants extérieurs, notamment pour pouvoir les avoir aux dates auxquelles on veut les avoir. Et puis il y a aussi une commission qui s'appelle la commission activité fraternelle. Est-ce que je dis juste ? Ah pardon, commission amour fraternel. Alors c'est la CAF, C-A-F. Évidemment le A est trompeur, mais je pense que le choix de dire commission amour fraternel pour une commission qui est chargée d'organiser des activités n'est pas anodin. En fait, l'objectif de toutes ces commissions, c'est certes d'organiser les activités de l'Église. Mais le premier but, avant l'organisation, c'est de se mettre d'accord sur ce que nous voulons faire ensemble et comment nous voulons le faire, de telle sorte que toutes les activités que nous faisons ensemble ne soient pas simplement des actions, des événements, mais que ce soit des moments où nous puissions apprendre à nous aimer les uns les autres. Et en revenant à ce passage de Jean 13, je vois 3 raisons apportées par le Seigneur, 3 raisons essentielles pour lesquelles il convient de manifester notre amour lorsque nous vivons des temps ensemble. La première raison, c'est parce que cela attire d'autres personnes à Christ. La deuxième raison, c'est parce que cela fait de nous une assemblée chrétienne plutôt qu'un club de foot. Et la troisième raison, c'est parce que nous avons un modèle. Alors la première raison, Pourquoi devons-nous faire des choses ensemble dans le but d'apprendre à nous aimer les uns les autres? Parce que cela attire à Christ. Je vous relis les versets 34 et 35. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Comment les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont comprendre ce qu'est un chrétien, quelqu'un qui a donné son cœur à Christ? C'est à travers les relations que nous allons avoir les uns avec les autres. Deuxième raison, parce que c'est cela qui fait de nous une assemblée chrétienne plutôt qu'un club de foot. Je m'explique. L'objectif d'un club de foot, c'est de marquer des buts. Et en général, lorsqu'il y a des buts, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Nous, notre objectif, ça va être l'inverse. C'est qu'il y ait une bonne ambiance entre nous pour que nous marquions des buts. Alors vous me direz, il y a des équipes de foot dans lesquelles il y a les deux, je suis d'accord avec vous, mais ça permet de replacer les priorités. Si nous apprenons à nous aimer les uns les autres, alors nous allons marquer des buts et nous allons remplir l'objectif que le Seigneur nous demande de remplir, que les personnes qui ne le connaissent pas comprennent ce que c'est que de connaître Christ. Troisièmement, parce que nous avons un modèle. Christ dit bien dans ces versets, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Autrement dit, Christ place sa propre personne comme le modèle de l'amour. Alors pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? Pour trois raisons. Premièrement, parce que là, au moment où il dit cela, il est avec ses disciples. Il dit bien « Je suis avec vous ». Ça fait 3 ans qu'il est avec eux. Il a pris le temps de développer une relation personnelle avec chacun d'entre eux. Il a pris le temps de les accompagner et d'être là, disponible pour répondre à leurs questions et pour les rassurer et pour leur montrer le chemin à suivre. Jésus-Christ est vraiment un modèle de maître qui accompagne ses disciples. Deuxième raison, c'est qu'il est attentif à leur formation. Il les appelle « mes disciples ». Et lorsqu'il dit qu'ils doivent s'aimer les uns les autres, il leur dit bien « je vous donne un commandement nouveau ». Autrement dit, il s'apprête à quitter ses disciples, mais non sans leur avoir laissé des principes, comme celui de s'aimer les uns les autres. Et surtout, c'est la troisième raison pour laquelle Christ est un modèle, surtout parce que Christ est un modèle de sacrifice. 2 chapitres plus loin, dans Jean, Jésus a cette phrase, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Et qu'est-ce que Christ a fait lorsqu'il est allé à la croix? Il a donné sa vie pour ses disciples, il a donné sa vie pour ses amis. Autrement dit, lorsque Christ dit « Aimez-vous les uns les autres », il le dit parce que lui-même l'a réalisé. Lui-même l'a fait et nous a montré que c'était possible. Et lui-même l'a fait à la preuve la plus ultime de l'amour en donnant sa vie pour ses disciples. Alors quel est le lien entre cet amour et puis les activités de l'Église? Je vous propose cette piste de réflexion. J'ai fait un rêve cette semaine assez bizarre. D'habitude, je raconte pas les rêves, mais là, il faut que je vous le raconte. J'ai rêvé que je me tenais dans le coin de la pièce, là-bas, au fond, que j'observais toutes les personnes qui bougeaient dans l'église et que je me disais, mais c'est fou, le nombre de personnes qui sont investies à Sonra et le nombre de personnes qui sont là pour une raison et qui mettent la main à la pâte. Des fleurs qu'Erika apporte, et je ne vais pas donner les détails, mais il y a un nombre incroyable de choses qui sont faites par les uns et les autres. Et je me suis dit, mais c'est fou, le privilège que j'ai dans une église où les gens sont investis, dans une église où il y a des ressources incroyables, des personnes qui sont capables de mener un groupe et de les faire marcher pendant 4 heures dans Lyon, mais c'est énorme, avec 30 personnes qui le suivent. C'est incroyable les ressources qu'il y a ici dans cette église. Il y a beaucoup d'activités qui se font. Mais il y a aussi beaucoup d'activités qui ne se font pas. Il y a aussi des activités qui ne se font plus. Et puis il y a aussi de nouvelles activités qui apparaissent. Le fait est que l'Église est constituée de personnes qui évoluent au cours du temps, au cours de leur vie, dans leur centre d'intérêt, qui viennent un temps dans l'Église, qui en repartent ensuite. Mais l'objectif, je crois qu'il doit être clair. Quelle que soit la durée de présence d'une personne dans notre Église, que ce soit un dimanche matin, que ce soit pour 6 mois, que ce soit pour 3 ans, ou que ce soit pour... nous, on est à 7 ans, là. Ou que ce soit pour 80 ans, l'objectif n'est pas de faire des choses. L'objectif, c'est pas de conserver des choses qui se sont faites. Mais l'objectif n'est pas non plus de toujours chercher à faire des choses nouvelles et d'effacer ce qui s'est fait dans le passé. L'objectif, c'est que nos activités soient l'occasion de nous aimer les uns les autres. Et il y a quelques principes évidents à suivre pour que nous puissions nous aimer les uns les autres dans ce que nous faisons. C'est d'accepter de ne pas tout faire, d'accepter de faire ce que nous, notre emploi du temps nous permet de faire et ce que nos moyens nous permettent de faire, de telle sorte que nous puissions faire les choses de bon cœur et non pas avec du stress ou avec de la fatigue et du découragement. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit rien faire et baisser les bras en disant que c'est trop dur, que c'est au-dessus de nos possibilités, mais à chacun d'ajuster en fonction de ce qu'il est en mesure de faire. Il est clair que nous ne pouvons pas non plus tout faire en tant qu'Église. Vous savez combien d'habitants il y a dans le 8e arrondissement? J'ai regardé ça hier soir. Il y a 81 977 habitants en 2014. On est une église d'à peu près 100 membres. Donc pour le 8e arrondissement, on n'est pas capable de toucher 81 977 personnes. Et si on prend l'agglomération de Lyon, il y a 2 100 000 habitants. Pas possible non plus. Bref, à l'échelle de notre église, et à l'échelle de l'église lyonnaise, il est important qu'on puisse aussi travailler avec d'autres églises. Et il y a un thème qui est apparu vendredi soir avec les réunions de commission, c'est l'idée que si on travaille ensemble, on va être plus fort. Et si on travaille, si l'ensemble des églises lyonnaises travaillent ensemble, eh bien, on va pouvoir atteindre nos objectifs. C'est notamment à travers des événements qui parfois font rêver, le 21 juin, pour la kermesse et la fête de la musique, ça va juste être énorme. Là, il y a juste un aperçu des activités qui vont y avoir. C'est pas tout à fait la réalité, mais pas loin. Et cette kermesse va être inscrite dans un événement qui va avoir lieu en 2016, au printemps 2016, qui est Un cœur pour Lyon. Ça a déjà eu lieu en 2012, si je ne me trompe pas. Et il y a un nouvel événement qui se met en place auquel l'ensemble des églises participantes vont pouvoir s'agréger. Et ce qui est énorme, c'est qu'ensemble, on va pouvoir toucher plusieurs milliers de personnes dans Lyon et on va pouvoir manifester notre amour les uns pour les autres. À travers toutes ces activités, on va donc développer notre relation avec le Seigneur et notre relation les uns avec les autres. Et toute cette relation que nous allons avoir les uns avec les autres et avec le Seigneur se fonde sur une conviction. Alors, la conviction qui apparaît dans ce passage de Jean 13 et Jean 14 est à la fois évidente et à la fois masquée. Alors masquée parce qu'en fait, il y a plein de paradoxes dans ce passage. Et plus je l'ai lu et plus j'ai trouvé ça incroyable comment on a l'impression que Jésus passe son temps à se contredire. Il dit à ses disciples, vous ne pouvez pas venir où je vais. Et puis, au chapitre 14, verset 2, je vous prendrai avec moi. Première contradiction. Il continue en disant, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Autrement dit, il a pris 3 années pour expliquer à ses disciples comment aller à Dieu. Et au final, il leur dit, vous ne pouvez pas venir où je vais, mais le seul moyen d'aller au Père, c'est par moi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de, je pense, un petit peu les embrouiller quand même. Et dans leur tête, ça doit être un petit peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Dans la mienne aussi, ça a été compliqué, jusqu'à ce que je fasse attention à la temporalité des verbes qui sont utilisés par Jésus ici, et puis au contexte de la discussion. Les disciples, ils sont choqués par la parole de Jésus au verset 33. Ça fait 3 ans qu'ils suivent. Ils ont tout quitté pour le suivre. Et voilà qu'il leur dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Notre marche ensemble s'arrête là. C'était sympa de me suivre pendant 3 ans. Maintenant, merci, vous pouvez rentrer chez vous. Vous n'avez plus de travail, c'est pas grave. Vous débrouillerez pour la suite. Sauf que ce n'est pas tout à fait ce que Jésus dit. Il parle au verset 33 au présent et il parle au chapitre 14 d'un avenir plutôt lointain dans le ciel après leur vie sur terre. Pierre est celui qui est le plus choqué par cette constatation de Jésus. Et il essaye de protester. Il essaye de dire à Jésus, mais Seigneur, où vas-tu ? Et Jésus lui dit, non, mais tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Et puis Pierre, qui est choqué, il ne peut pas laisser 3 ans de sa vie partir en fumée, il lui dit, comment ça, je ne peux pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus répond d'une manière perplexe, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Dur pour Pierre. Et souvent, pour comprendre ce passage, on s'arrête là, parce que c'est la fin du chapitre 13. Et en réalité, Jésus continue ce dialogue avec Pierre par une ouverture vers l'ensemble de ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et ici, on a le paradoxe le plus impressionnant de ce passage. Jésus vient de dire à ses disciples qu'ils ne vont pas pouvoir le suivre. Il vient de dire à Pierre qu'il va le renier. Et comment est-ce qu'il leur redonne la paix ? Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a un rayon à l'entrée du magasin. Le thème, c'est le bien-être et vie pratique, ou le développement personnel. C'est quelque chose qui existe déjà depuis les années 70, mais qui revient largement à la mode. Et il y a plein de bouquins qui sont qui donnent envie, parce que justement, ça, l'idée, c'est de pouvoir penser positif. L'idée, c'est de pouvoir changer sa manière de raisonner pour pouvoir retrouver de la dynamique et de la joie de vivre. Alors, je voudrais vous montrer quelques-uns de ces livres, parce que je trouve ça intéressant. Et puis réfléchir, est-ce que Jésus n'est pas en train de faire ça finalement ? Vous êtes troublés, je vais vous laisser tout seul. Que votre cœur ne se trouble pas. On a l'impression que la solution est assez simple. Regardez quelques-uns de ces livres. Changer d'altitude, avec un titre assez sympa, parce qu'en fait l'auteur, vous le connaissez, c'est Bertrand Piccard. C'est celui qui est le pilote et le promoteur de ce projet Solar Impulse, l'avion solaire qui essaye de faire le tour du monde. En fait, Bertrand Piccard est un psychologue donc il donne des pistes pour développer une pensée positive à travers l'hypnose notamment. Je vous le conseille pour vos vacances et vous pouvez m'envoyer les cartes postales. Ça m'encouragera, ça m'aidera à penser positif. Par contre, il ne faut pas dépasser. Ça c'est un truc que je voulais montrer, c'était ce qui parle notamment aux jeunes qui ont fait les week-ends agités, parce que les kiffades pendant les week-ends agités, c'est des grands moments, et les jeunes ont bien aimé. En fait, David Sautel utilise cette expression pour susciter des volontaires pour faire la vaisselle, ce qu'il appelle le kiff du jour. Voilà, il y a 3 repas par jour, 3 kiffs par jour, et autres rituels recommandés par la science pour cultiver le bonheur. Power Patate, ça aussi, je l'ai pas lu, mais ça a l'air vraiment bien comme bouquin, si vous avez un passage à vide. Retrouvez vos super pouvoirs. Et puis surtout, alors celui-là, ça c'est le titre que j'ai préféré, et je pense que, voilà, il n'y a pas de message personnel, c'est pour moi-même, j'arrête de râler, pour retrouver sérénité, calme et plaisir en 21 jours. Alors, il est décliné sous différentes versions, il y a la version pour les parents, et puis les couples, et puis il y a la version aussi pour tout le monde, c'est pour les vacances, si vous donnez des cahiers de vacances à vos enfants, vous pouvez prendre celui-là pour vous-même. Voilà, c'est aussi bien sur la plage, ça permet de penser positif. Alors, est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, mettez-vous en tailleur, les bras en l'air, et puis l'orage va passer? Alors, j'aimerais vous raconter une expérience à travers les 2 ans que j'ai investi dans le concours que j'ai passé. J'ai préparé une première année, et si vous voulez, ça a été comme une période... un petit peu d'euphorie, je me suis investi à fond, j'ai réussi les écrits, j'ai pu aller aux oraux, et il s'est trouvé que j'ai loupé mes oraux. Et là, ça a été comme une dégringolade, passage à vide, 3 mois de blackout total, je savais, j'étais comme sonné, comme un match de boxe où on a l'impression d'avoir gagné, et puis à la fin du match, l'arbitre compte les points et dit que c'est l'adversaire qui a gagné. Ça m'a mis le moral dans les chaussettes. En rediscutant avec Ruth, j'ai décidé de repiquer une 2e année. Et pareil, je me suis investi à fond. Je me suis dit, cette fois-ci, j'ai la méthode, ça va bien se passer. Et puis, il se trouve que j'ai réussi. Et je suis super heureux d'avoir réussi. Sauf qu'en réalité, la 2e année, et la première aussi, ne peut pas se résumer à du travail, des efforts, de la réussite. Si je vous disais ça, je ne serais pas très honnête avec vous. En fait, c'est très difficile quand on prépare un concours, parce qu'il y a des éléments contrôlables, le travail personnel, en quantité et en qualité, et puis il y a des éléments incontrôlables. Les aléas de la vie, on peut être malade pendant une période, il peut y avoir une fuite d'eau de l'appartement d'au-dessus, qui fait qu'il faut s'occuper du matériel, et donc on ne peut pas réviser. Qui va corriger ma copie, est-ce qu'il va la corriger au début de la pile ou à la fin de la pile, est-ce qu'il va la corriger à 3 heures du matin parce qu'il est à la bourre. Il y a plein de facteurs qu'on ne contrôle pas. Et en fait, en septembre 2014, alors que je me suis remis dans mes révisions à fond, j'avais des cours de préparation le mercredi après-midi, le samedi matin, le reste du temps j'étais au boulot avec mes élèves et c'était beaucoup d'investissement, et j'ai commencé à ressentir énormément de stress. Et en fait, un stress à tel point que j'avais des symptômes physiques assez alarmants. Par exemple, je n'arrivais plus à fixer mon regard sur un point précis. Mes yeux étaient tout le temps en train de partir à droite à gauche, parce que j'étais trop stressé. Mon rythme cardiaque, sans même faire de sport, s'est mis à augmenter. Et puis, j'ai même eu un phénomène, alors, personnel, mais ça s'est manifesté comme ça pour moi, j'ai eu la tête qui s'est mise à chauffer. Il y a des moments où j'étais en cours, face à mes élèves, je parlais et ma tête chauffait. J'étais obligé d'ouvrir la porte, la fenêtre, partout, et j'ai l'impression que ça allait exploser. En fait, si je vous raconte ça, c'est parce que cette expérience n'était pas seulement une expérience intellectuelle, ça m'a aussi appris des choses sur moi-même, et sur le fait que j'étais vulnérable au stress et que j'étais pas capable de résister à la pression de la préparation d'un concours. Et je peux vous le dire maintenant avec le recul que j'ai vécu une vraie délivrance à travers 2 moments que le Seigneur a mis sur ma vie. Le premier, c'était une discussion avec Gavin Sutherland, qui est aussi passé par une période de concours, et qui m'a dit que lui, pour préparer son concours, il y a un moment donné où il a laissé le résultat entre les mains du Seigneur, tout en bossant pour réussir le mieux possible, mais il a réalisé que le résultat final dépendait de trop de paramètres incontrôlables pour pouvoir tout contrôler. Et donc il a réussi à se décharger sur Dieu. Et puis malgré cela, c'était dur pour moi de faire le saut et de dire « Ok, je lâche, j'accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et de laisser une place pour la possibilité d'échouer. » Et j'en ai parlé un soir en réunion de prière de quartier. Il y avait Eric qui était là, il y avait les personnes de notre groupe de quartier. Et puis on a prié pour ça. Et après la réunion, j'ai senti que ça y est, je pouvais lâcher, que ce nouvel investissement pour ce concours était entre les mains du Seigneur, et que finalement, ce qui comptait, c'est que lui avait déjà tout fait pour moi, il avait donné sa vie pour moi, et quoi qu'il arrive, que je réussisse ou que j'échoue, ce qui comptait, c'était que je lui appartienne. Mais ça m'a coûté, ça m'a demandé de reconnaître et d'accepter que je ne pouvais pas tout contrôler. D'accepter que j'étais complètement vulnérable au stress. Et Daniel Coronès, dans son livre « J'ai failli mal tourner », a cette phrase qui dit « Il faut accepter de perdre une chose pour en gagner une autre ». Parce que Christ est allé à la croix, il a accepté de perdre sa vie pour que nous puissions vivre notre vie. Il a accepté de perdre sa vie pour que nous devenions ses enfants. Et il a accepté de perdre sa vie pour que, face à une situation de stress intense, eh bien, je puisse réaliser que ce qui compte, c'est ce que lui a fait, et non pas ma propre capacité à gérer la situation. Ainsi, j'ai vu que, finalement, dans ces deux années de concours, le Seigneur a travaillé dans ma vie et a transformé aussi mon caractère, m'a fait prendre conscience de certaines de mes faiblesses, il m'a fait prendre conscience de ma difficulté à reconnaître que j'ai besoin de lui et que face aux troubles et aux difficultés, il me dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est ça la conviction que Jésus donne à ses disciples. C'est que quel que soit ce qui se passe dans leur tête, les doutes, les incertitudes, les incompréhensions, il est là, il est présent à leur côté, il est avec eux et il a déjà tout accompli pour qu'ils puissent s'en sortir. Ils ne sont pas capables de trouver la paix que Jésus leur propose tant qu'ils n'ont pas réalisé qu'il a déjà tout fait pour qu'ils puissent l'avoir. Et mon troisième point, c'est d'insister sur le fait que Jésus ne donne pas seulement des clés pour une bonne relation, pour une conviction personnelle, mais il donne aussi une direction. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples ? Il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Quelqu'un m'a prêté un roman dernièrement, dans lequel je suis pas mal engagé. Alors, il y a des personnes qui lisent parce qu'elles ont des insomnies. Moi, j'ai des insomnies parce que je lis un roman, là. Je suis à fond dedans. Et ce roman, il y a une citation qui est pas mal à un moment donné, il dit, donc c'est, c'est un écrivain qui s'appelle Harry Kéber, qui écrit à son étudiant en littérature, Marcus Goldman. La vie, c'est comme une course à pied. Il y aura toujours des gens qui seront plus rapides ou plus lents que vous. Tout ce qui compte, au final, c'est la vigueur que vous avez mise à parcourir votre chemin. C'est beau comme citation. Tout ce qui compte au final, c'est la vigueur que vous avez mise à parcourir votre chemin. Mais c'est d'autant plus beau si on sait que le chemin, c'est Christ, et si l'on sait que Christ est aussi la vigueur, celui qui donne la force de mettre un pas devant l'autre, jour après jour. Ainsi, lorsque Jésus dit à ses disciples « Aimez-vous les uns les autres », il leur donne un commandement nouveau, mais il leur donne aussi la force de le réaliser, parce que lui-même a été le modèle, parce que lui-même s'est offert en sacrifice pour ses disciples. Jésus dresse devant ses disciples un modèle ultime que lui-même a accompli. Et je terminerai avec cet exemple qui a été lors des 90 ans de mon grand-père, en fait, chaque petit enfant, donc on est 7, a raconté une anecdote de ce qu'il a vécu avec son grand-père. Et mon cousin, qui a le même âge que moi, a raconté que quand on était, c'était 10 ans, on allait souvent faire de la randonnée avec mon grand-père. Et moi, j'ai le souvenir des beaux paysages, des montagnes, etc. Et mon cousin, il a un souvenir complètement différent. Il a raconté que ce qu'il se souvient, c'est que mon grand-père avait des grandes chaussettes rouges qui montaient jusqu'aux genoux et qui étaient des chaussures de marche, et il avait toujours fait comme ça, etc. Et mon cousin, il garde un souvenir traumatisant de ces chaussettes rouges parce qu'il se disait, mais est-ce que moi, quand je serai adulte, je serai obligé de porter des chaussettes rouges jusqu'aux genoux quand je marcherai dans la montagne? Mais bien souvent, c'est comme ça qu'on peut se représenter Jésus-Christ comme le chemin. On a l'impression que marcher sur le chemin de Christ, ça va être une obligation de porter des chaussettes rouges, qu'il va y avoir plein d'inconvénients et que ça va être difficile. Et finalement, on oublie de regarder à tout ce qu'on gagne vraiment en marchant sur le chemin avec Christ. De lever les yeux et de regarder les montagnes, de regarder la beauté des paysages. Et finalement, comme ce que Jésus conseille ici à ses disciples, lorsqu'il leur dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi, d'arrêter de garder les yeux rivés sur le chemin, sur le sol, mais de réaliser qu'on a besoin d'avoir les yeux rivés sur le chemin personnifié, celui vers qui on peut regarder tout au long de notre semaine, c'est Jésus-Christ lui-même. Ainsi, marcher avec Dieu, c'est le projet d'une vie entière, pas d'un instant. Marcher sur le chemin, c'est apprendre à connaître Christ, le chemin personnifié. Amen.